太难了。
好的，是错，怎么写？嗯，哎，风霜的霜，没风。你说我刚才是非常感冒，没有东西。
嗯
，OK。Bon, on a vu là en fait, on a parlé en gros de l'historique, même si on a déjà parlé d'une série de choses différentes de ce qui se passe avec les pierres. Et maintenant, ce que j'ai envie d'aborder, tout le monde, c'est les types de pierres qu'on va trouver. Alors, il y a la pierre, on va appeler la pierre naturelle brute. Donc, on soit ici un fion de vétive. Ici, là, la labradorite en brut. Parce que c'est un genre, la labradorite, mais c'est connu.
Ah, mais moi je voulais poser une question par rapport à cette pierre. Parce que Carole m'avait dit que c'était une pierre qui avait des reflets. Et moi on m'a vendu ça sur la labradorite. Tu vois ?
Bon, je vais tout aborder autre chose. Non, la pierre, hein ? Donner un exemple à quel point les choses sont complexes une fois qu'on aborde la minéralogie. Ici, on a deux pierres identiques, on a une aventure inverse. C'est la même pierre. C'est pour dire les nuances qu'on a dans deux pierres. Il faut vraiment bien s'y mettre pour savoir que ça et ça sont deux aventures inverses. Là, on rentre dans un domaine un peu plus complexe qui est le de la minéralogie pour identifier une pierre pour analyser au grand microscope. Bon, alors effectivement, je suis surpris hein, parce que la labradorite, c'est un feldspath et donc typiquement quand il est poli, il y a un reflet lissé.
Donc on n'avait pas trouvé ce dessin, donc
on a fait des choses. Donc ici, je suis un petit peu surpris. Je ne voudrais pas dire que ce n'est pas une labradorite qui est une grande variété et que je ne suis pas spécialiste en minéralogie, mais elle n'est pas classique en tout cas.
Parce que j'ai la dans le même, j'ai acheté celle-là et une autre vert plus foncé. Mais de la même matière. Quoi. Ouais, c'est pas. Moi, je l'utilise comme ça, le temps d'un fond.
De toute façon, hein, une chose qu'on verra plus tard, c'est que. Dans ce que je propose ici, donner un nom aux pierres n'est pas vraiment très important. Ça, c'est bien de voir qu'on parle en soi et que tiens, j'ai mis à l'abri tout ceci pour éliminer. Mais dans le travail qu'on va faire, c'est pas ça qui est important. C'est que la pierre ne plaise pas. C'est pas ça qu'il faut donner un petit brut. Les pierres, quand on a des trucs bruts, la pierre taillée, alors la pierre naturelle brute, évidemment, qui sont ses avantages. Bah, c'est qu'elle est issue de la terre comme telle et qu'elle n'a pas été modifiée par l'humain. Alors beaucoup de personnes en auto vont vous dire que c'est la pierre qui est la plus efficace, c'est la pierre qui est la plus puissante. Je ne suis pas d'accord avec ça. D'ailleurs, le travail de Rudol a été démontré qu'un quartz, en le taillant, on amplifiait sa puissance, en tout cas au niveau du travail de focalisation de l'énergie, on amplifiait sa puissance. Donc la pierre taillée, deuxième aspect, la pierre taillée, dans bien des cas, la taille vient renforcer, voire modifier la qualité de la pierre. Donc, entre autres, pour les quartz, la taille qu'on va leur donner va vraiment modifier. Un exemple, on reviendra tout à l'heure un petit peu là-dessus, l'icosaèdre. Bon, c'est un volume de 4 ou l'icosaèdre, c'est un cristal de roche qui est taillé avec un triangle littéral, une facette. C'est une pierre qui a une super puissance. Donc, dans ce cas-ci, vraiment la taille, comme dans le cas de la vie, la taille est très importante. Donc, les tailles, les angles de forme qu'on va donner là-dessus, évidemment. Dans tout ce qui est sculpté, une pierre qu'on a taillée en forme de cœur, par exemple, taillée en pierre qu'un quartz rose, qui est déjà une pierre typiquement de la douceur et l'amour du cœur, taillée en forme de cœur, on va avoir cette forme de forme au niveau symbolique dans ce cas-ci. La symbolique de porter un cœur sur soi, eh ben c'est important, un quartz rose en cœur, donc là on est dans la symbolique culturelle, inconsciente, c'est très important. Alors on a des angles de forme qui ne sont pas seulement dans la symbolique, qui sont les pentagrammes, des choses comme ça, où là on a un effet, enfin, en rayonique, on a donc les angles de forme qui ont une importance, qui ont un impact, on n'est pas dans le culturel, et donc ça va agir aussi là-dessus. Donc la taille est importante, la forme, qu'elle soit sculptée ou taillée d'une certaine manière, et c'est pas pour rien qu'à la base, les pierres précieuses ont vraiment été utilisées par les dignitaires, les monarques, les chefs pour asseoir leur puissance. Parce que vraiment, on se rendait compte que c'était des pierres de canalisation de force et que la manière dont elles étaient taillées augmentait encore la puissance. Pourquoi on a taillé ça? C'est pas que pour la beauté, il y a vraiment un aspect de force. Quand le sceptre, c'est vraiment le bâton magique du sorcier. C'est pas du tout innocent, c'est un bâton de pouvoir, le sceptre, avec ses pierres taillées mises dedans. C'est vraiment un outil. Il fut un temps où les rois, je pense pas qu'Albert soit comme ça, les rois étaient des grands mages. Enfin, il y a vraiment un côté, c'est eux qui avaient le grand pouvoir au niveau ésotérique, si on se recule, on ne sait pas ces mots à ce moment-là, mais les mots de magie utilisaient la puissance, la puissance céleste, il y a quelque chose de très fort à ce moment-là, puis après, il y a eu une dégénérescence dans l'aspect de la réalité. Mais donc, ce sceptre, ce bâton de pouvoir était vraiment quelque chose de très important, et on est sur le bâton de sorcier, le bâton de magicien, ben oui, c'est quelque chose de super important. Ce sont des bâtons qui sont chargés, et les bâtons, même le bois, est quelque chose qu'on peut vraiment très très fort charger et programmer. Et les pierres qu'on vient mettre dedans, rajouter la force, réellement, le pouvoir, hein, on a vraiment les quatre valeurs de ces quatre pierres précieuses, hein, comme je disais, le diamant qui est réellement, qui est. Alors, on avait le rose qui était la sagesse, on avait le saphir qui était la détermination, la pensée, enfin, le truc bien là, et on avait le rouge, le rubis qui était la passion, mais le pouvoir aussi, qui était le truc moi, quoi. Hein. Et donc, l'Église a très très fort utilisé ça, beaucoup utilisé la magie. Hein. Enfin, magie, c'est compliqué le mot magie, parce que magie, dans notre culture à l'heure actuelle, c'est un truc bizarre, mais la magie avant, c'était l'utilisation de la force de vibration, tout simplement. Et comme c'est pas scientifique, c'est magie. Bon, c'est un petit peu dommage. Quand avec les pierres, on a beaucoup d'impact qui ont beaucoup servi à ça, vraiment à asseoir la force du pouvoir, et donc du coup, à ce que le peuple ne puisse pas. Un petit peu les différentes formes de pierre. Alors, qu'est-ce qui peut qualifier une pierre? La pierre, elle a sa couleur, très important la couleur, parce que la couleur c'est une vibration en soi, on en a parlé tout à l'heure. On pourrait se contenter de choisir la pierre que par leur couleur, point. On va plutôt faire de la color thérapie à ce moment-là avec les pierres. Okay. Soit. Les pierres, elles ont leur composition chimique. Elles ont leur structure cristalline. Alors, c'est évidemment un certain type de vibration. Elles ont leur histoire, leur origine. Non, pas tout à l'heure, c'est une pierre qui vient du magma, c'est une pierre qui est transformée, une pierre qui vient d'érosion. Donc, ça, c'est un peu les différents types de pierres, leurs histoires, est-ce qu'il est. Les qualifie les unes des autres. Oui, la symbolique de la pierre, l'or qui va être une pierre de richesse, par exemple. Ça a un sens, parce que un tas de côté inconscient, évidemment, dans la symbolique, où on est entre guillemets plus fier d'exposer à son doigt un diamant qu'un morceau de jaspe trouvé par terre. Voilà. Ok. On a un petit type de pierre. Enfin, oui, la pierre roulée et polie. Bon. La différence entre une pierre roulée et polie, une pierre roulée, c'est une pierre, on met dans des bacs, on prend, voilà, exemple, une sugilite, un éclat de sugilite qui n'a pas passé encore à la machine à rouler, et un éclat de sugilite qui est passé.
Sugilite.
Ça veut dire une pierre. Ne pas confondre avec la charroute, ça ressemble un petit peu. C'est un peu plus de charroute que de sugilite. La charroute qui est aussi plus sur une pierre de synthèse. On va voir ça. Pierre de synthèse, je vais voir ça quand même. Après, je vais voir ça maintenant. On va aborder ça.
Pour tailler, pour rendre lisse, c'est juste frotter.
Non, c'est en fait, on les met dans des machines qui vibrent avec des grains abrasifs. On laisse la pierre dedans et ça vibre pendant des jours. Et ces grains, les pierres tournent là-dedans et la pierre ressort.
C'est le principe du mercure dans la mer, quoi.
Voilà. Et là, donc, ça c'est poli. Et tu trouves des pierres polies, c'est-à-dire des pierres qui ont subi la même chose. Qui ont roulé dans la mer, dans les rivières, et qui, à force aussi de frotter sur des choses abrasives, vont se polir naturellement. Alors, c'est clair qu'une pierre qui est polie naturellement, elle a toute une histoire, elle a tout son voyage, elle est passée de la montagne, la rivière, la mer, voilà. Elle a pris plein de trucs sur elle. Donc, c'est une pierre qui est chargée de plein de choses. Une pierre comme ça, c'est une pierre qui est chargée de trucs commerciaux ou industriels. Ce sont des mineurs exploités en Brésil qui vont, avec des marteaux piques, péter les veines. Avec le commercial de là qui va le mettre dans les machines, des grosses machines qui vont vibrer ça, qui ça va être envoyé par container. Il y a une histoire commerciale là-dedans qui est importante. C'est pour ça qu'on verra par après qu'une pierre, c'est important de la nettoyer et de la déprogrammer. Tout ce qu'elle a reçu qui ne nous convient pas. Il est clair que les pierres, à mon sens, qui sont les plus pures, sont celles qu'on va trouver nous-mêmes dans la nature. D'abord parce que je crois que ce qui nous arrive n'est pas innocent et que si on rencontre une pierre et elle est sur notre chemin, c'est qu'on a quelque chose à faire avec. Donc il y a quelque chose à dire. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas cet aspect commercial. Il faut savoir que le commerce de la pierre, on parlera ça tout à l'heure, comment il fait où on peut acheter une pierre. Les prix, ce sont des démarches bénéficiaires de 100 voire de 1000, hein, c'est un truc énorme. Quoi. Une marche bénéficiaire qui se prennent là-dessus. Donc il y a vraiment des endroits où on se fait beaucoup d'argent sur les pierres, pas les mineurs, dans ces endroits-là. Donc la pierre roulée n'est pas à négliger non plus parce qu'elles sont belles, elles nous plaisent. Selon Ito, on peut dire que c'est la pierre la moins intéressante parce qu'elle est plus commerciale. Chipoté, pas avec amour. C'est clair que un morceau de rubis, un beau rubis qui est taillé par un lapidaire qui va te le faire, tu sais vraiment bien qu'il est passé, qui va le faire avec amour du métier, tu peux espérer en tout cas qu'il va avoir une passion dans ce qu'il fait, qu'il va mettre son amour dedans. Ici, c'est du fruit, quoi. Sinon, c'est de la pierre, entre guillemets, maltraitée. Mais on peut avoir une histoire d'amour avec elle, on peut flasher dessus. Passer à autre chose. Et voilà, ça c'est fini, maintenant on rentre dans un autre truc. Donc ça c'est important d'être notre conscience de ça, de ce que la pierre.
Donc ça en fait c'est pas de cette texture-là. Simplement de ce qu'il y a dans un bac.
C'est ça. Si tu as le marbre qui est pas l'écho au-dessus, je peux dire que la série c'est on dirait la bête proche de l'île en fait.
Ici c'est un chou, hein, cette texture-là. Celle-ci, parce que ça c'est un truc justement spécial, mais celle-ci, la bras de riz, qui est passée à la machine roulée, non, elle est passée dans la machine.
C'est ça.
Ici, le tigre aussi, tu vois, on éclate des veines de tigre, on n'est plus tous les petits morceaux qui ressemblent à ça.
On met dans la machine, et ça peut mettre longtemps.
Ça peut mettre longtemps.
Parce que je veux dire. Et en fait, ça c'est. Je veux dire, dans la nature, ça met des années, des centaines d'années,
ça met du temps, mais le temps que ça vient de la veine, de la montagne, que ça descend, que le torrent, que c'est roulé,
donné des numéros de
développement. Ouais, et puis un lien.
Parce que moi, ça existe une. Quoi, les nœuds sont roses, quoi. Une carrière de roue de quartz rose, par exemple.
Alors, sans des veines. Quartz rose, ce sont des veines. Mais très rarement sous forme de cristaux, ça arrive. Mais en ramassant surtout des veines. Suivant ce qu'il faut, hein, de. Il y a beaucoup de cristaux qui sont sous forme de veines. Il y a des cristaux qui sont sous forme de poches, hein, qui sont des quartiers à l'un, des disques.
Donc là, si tu casses la roche et puis tu trouves une espèce de plume dans laquelle il y a.
Soit une géode que tu as récupérée et que tu as jetée à une géode qui va avoir des cristaux.
Mais les géodes, c'est des choses qui poussent comme ça et qu'on trouve, ou ce sont des choses qui sont dans la pierre et que tu as taillé tout autour.
Alors tu as les deux, tu as effectivement des géodes qui sont des morceaux de pierre qui ont gardé leur. Ce qui veut. Par ce qui s'est passé, ça a durci la pierre. Mm-hmm. Ce qui se passe en fait pour retrouver une géode, on va un petit peu simplifier. Tu as le magma, tu as un volcan, tu as le magma ici, puis tu as une faille, ça monte, et puis ça va aller un petit peu ici, plus en petit, puis ça ne va pas aller plus loin, ça n'a pas plus de force. Et tu as une poche, je la gère les tailles. Le magma va aller là avec une eau, de l'eau, hyper chargée en silice. Et donc quand ça va se retirer avec les pressions froides, tu vas avoir des cristaux qui vont pousser un petit peu partout. Mais ici, avec ce qui s'est passé avec la chaleur et tout, cette roche-ci est plus dure que celle-là. Donc quand le volcan va s'éroder, parce que les volcans on en a en Belgique, longtemps, on n'en a plus, donc ils sont érodés. Petit à petit avec le temps, hein, le volcan c'est un cône de roches basaltiques qui sont là, qui s'assemblent les unes avec les autres, mais qui ne sont pas très costauds. Un volcan c'est pas très costaud en soi. Donc ça s'érode assez facilement, mais ici c'est plus dur. Donc quand ça se referme soi-même. Je parle des petites géodes qu'on trouve. Là, ces petites géodes, avec l'érosion, ce sont des cailloux qui vont être comme ça, il me semble, qu'on va retrouver à gauche à droite. Pris par l'érosion, on est dans certains endroits, qui vont être comme si elles se prenaient sérieux sur ces géodes, la faire tomber, par deux, faire tomber les cristaux. Ou tu peux effectivement avoir un endroit non érodé, et tu vas creuser, tu peux tomber dans une salle, une petite boule, ou une grosse boule, remplie de cristaux qui sont encore dans le paroi. Ça, c'est souvent le cas. La plupart des quartz qu'on a ici viennent pas de géodes, mais viennent de zones qu'on a trouvées, puis après on les fait, on les casse même directement.
Et en fait, si on cassait vraiment tout autour, on devrait fermer cette boule. Non, au lieu de casser directement les cristaux, si on taillait tout autour, pour nettoyer, on aurait une boule.
Pas nécessairement. C'est-à-dire que la boule dépend de la variation. Comment dans le trou s'est passée la chaleur et la solidification par rapport au substrat qui est autour. Mmh. Tu pourrais avoir une fente dans une montagne qui est très homogène, avec érosion, peut-être que quand on arriverait là, ça ne se ferait pas sous forme de boule. Oui. Pour avoir la boule, la chaleur, vraiment la boule, il faut qu'il y ait une grosse différence de densité entre ce qui s'est passé, donc qui s'est solidifié, et ce qui est autour, qui est plus noble. L'érosion,
ça existe des géodes à taille humaine qu'on puisse être dans une salle avec des cristaux tout autour.
Oui, ça existe. Il y a des salles qui sont peu, mais qui sont connues, qui sont de soir procès, cristaux. Et puis il y a les fameuses géodes du Brésil, dans lesquelles la boursonnière de Sainte-Marie, ils sont chaque fois là, avec des groupes, avec des géodes. Mais il y a beaucoup de chances qu'elles soient artificielles.
On sait faire ça artificiellement.
Et juste ce que j'ai terminé ici, là-dessus, la pierre roulée, la pierre polie. Donc par rapport aux pierres artificielles, on fait beaucoup de pierres artificielles. Est-ce bien, est-ce moins bien d'avoir une pierre artificielle? C'est compliqué. Le débat n'est pas simple. L'acteur évidemment d'une pierre artificielle n'a pas le vécu d'une pierre naturelle, mais elle en a les mêmes caractéristiques physiques.
Donc le quartz, depuis longtemps, on essaie de faire des pierres artificielles. Il y en a un diamant à l'intérieur. C'était très content, on essaie de faire des diamants artificiels. À l'heure actuelle, on fait 80 tonnes de diamants artificiels par an pour l'industrie. Sous forme de poudre, parce que c'est plus facile à faire sous forme de poudre que sous forme de cristaux. Donc toutes les mèches au diamant, pour le temps, tout ça, c'est du diamant artificiel. Oui, parce qu'il semblerait, cet avis semble unanime, mais le diamant est un sujet assez controversé, que le quota du diamant est fini sur Terre. Que la force qu'il y avait pour créer les diamants naturels, en tout cas, la Terre n'a plus cette force-là. Elle pourra rejeter encore des diamants, c'est pas ça, mais elle n'en fabriquera plus.
Et plus on en prend, moins il y en a.
Et la Terre en a besoin pour
elle-même
ou...
Là, on rentre dans des questions. De quoi la Terre a vraiment besoin? Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? C'est bien, c'est pas bien. Je ne vais pas m'avancer là-dedans pour l'instant. Et donc, des roches de synthèse. Alors, il y a des classiques. La plus classique, le nombre de gens qui vous donnent la roche. C'est la pierre du soleil, c'est vraiment. C'est très joli. Mais c'est du mica, c'est une incrustion de mica dedans.
Du mica.
Et
c'est de la poudre qui a été mise ensemble, ouais. En fait.
Et c'est totalement synthèse.
Mais en même temps, ça se voit, non?
Oui.
Que c'est de la synthèse.
Dire, oui, quand je regarde la jeunesse, c'est tout chaud, quoi.
Moi, il peut y avoir quelque chose, mais qui sont moins intéressantes, en tout cas dans ce que je rencontre avec. Il y a des pierres qui me surprennent, pour n'avoir pas du tout de vibration, pourquoi elles sont synthétiques, pourquoi pas. J'avais l'exemple avec Caroline, avec son bracelet, je suis très surpris, je ne ressens pas du tout ce bracelet de vibration. Je ne vais pas dire que c'est du synthétique. Il est clair que tu as vraiment beaucoup de pierres synthétiques qui sont sur le marché. Parce que c'est facile à fabriquer des cristaux. Enfin, certains. Il faut savoir que les cristaux comme le zirconium, par exemple, qui remplacent facilement en joaillerie le diamant, ça se ressemble relativement fort, on va dire. Ben, c'est assez facile à faire. Donc, il faut s'y connaître. Comme il y a un marché, les pays comme l'Amérique du Sud et surtout la Chine sont vraiment les champions par rapport à ça. De tout temps, ça a été un peu de commerçants. Et là, ils ont pris un autre bon filon. Et ils exploitent. Il y a même des trucs qui n'existent pas sur le marché. Il y a une autre pierre dont on parle beaucoup qui est le larimar. Larimar, une pierre issue de la République dominicaine qui est apparue comme ça. Il y a très très longtemps, c'est les fameuses pierres du Nouvel Âge. En tout cas, ils apparaissent. Il y a Ilmina, par ailleurs, personne ne peut les citer la mine. Enfin, beaucoup d'éléments qui laissent à penser que c'est une pierre de synthèse. Tout simplement. Et pour faire de la pierre, il suffit de faire une soupe avec des minéraux, de les pousser à une certaine température, de les laisser refroidir. Je simplifie. La température, c'est une pression, de les laisser refroidir. Et tu as des minéraux qui apparaissent. Donc, c'est pas très compliqué à fabriquer. Aussi avec sa propre pression. On pourrait peut-être arriver à faire des choses. Donc.
Et puis quand tu achètes des pierres, on te dit si elle est de synthèse ou si elle
est. Ça dépend de la personne. Il y a des gens qui n'y connaissent rien. Il y a des gens qui s'y connaissent un peu, mais qui vendent. Et puis tu as des gens qui sont. honnêtes, qui disent ce qu'ils pensent. Et puis parfois, tu as des gens qui sont honnêtes et qui se sont fait avoir par la façon dont ils ont acheté. Donc, là, on est vraiment dans le monde de géologie, qui est beaucoup plus complexe parce que c'est avec un microscope que tu peux analyser ta pierre, savoir si c'est vrai ou pas. L'exemple de la pierre de soleil est un exemple finalement qui est très gros, c'est pour ça que je vais vous montrer, qui est un classique bien connu. Il y a les fameuses agates teintes. Aussi, c'est très joli, hein, des mobiles avec des agates teintes, un très joli produit. C'est des couleurs très flash, pas un son teint. Il y a des pierres. La citrine, par exemple, c'est très dur de trouver de la citrine. Dans la plupart des cas, c'est de l'améthyste qui est beaucoup plus fréquente, qu'on passe au four, et au four, elle devient jaune-orangée. La plupart des citrines qu'on vend dans les magasins, c'est de l'améthyste. Donc, ça embête dans le sens où s'il y a un mensonge derrière la pierre, on a une pierre qui part avec un mensonge, alors qu'on est quelque part pour aller contre la vérité. Les choses sont justes. Donc, moi, ça ne me plaît pas. Si on fait quelque chose de synthèse, et qu'on accepte de travailler avec un minéral de synthèse, alors, pour quelque raison que ce soit. Je ne suis pas vraiment pour. Mon approche, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un travail avec. Je suis pas pour parce qu'il y a un truc, vous avez certainement entendu, et moi l'aspect commercial, l'aspect pour raconter des conneries pour se faire des frites, ça ne me plaît pas. Et déjà jouer ce jeu-là ne me plaît pas, me faire avoir là-dedans, puis encore moins. Donc pour avoir un objet commercial.
C'est ça qui doit savoir, c'est ça le problème.
Oui.
Et voilà, pour avoir des pierres, tu dois faire, comme tu dis, les trouver, tu n'as pas trouvé les trouver par terre en prenant. Donc, tu as une laboratoire, tu n'as pas quoi, tu dois passer par un magasin et faire confiance.
Ouais.
C'est
ça. Je
pense que c'est un magasin, c'est à 100%.
Mais il y a aussi, comme tu dis, des histoires de rencontres qui jouent.
Mais je pense que si ça te plaît, si la pierre vraiment te plaît, et on va reparler un petit peu après comment faire le chemin avec la pierre, parce que sinon la première chose c'est la pierre te plaît. Je prends toujours l'analogie parce que c'est une idée assez frappante. Tu rencontres un mec qui te plaît, ok, c'est très bien, pas sorti ensemble, puis après une semaine tu le découvres un peu, tu te dis bon, bah, ouais, je suis plus loin quoi. Bon, c'est une chose, la pierre c'est la même chose, tu peux rencontrer une pierre. Elle te plaît, puis on va parler après du travail des programmations, de découvrir la pierre, de nettoyage, et puis après, quand tu fais un travail avec la pierre, bah, je sais pas, il y a un truc, ça, la pierre te parle pas. Bah, ok, salut. Voilà, ça, c'est la deuxième partie du travail. Finalement, le flash qu'on a avec la pierre, qui correspond peut-être à un moment où on a la même couleur, on a besoin de cette couleur-là à ce moment-là, enfin, qu'importe. Après, il faut aller voir plus loin. Et je pense vraiment que si on est dans l'intégrité, si on a une pierre qui ne nous convient pas parce que c'est une pierre de synthèse et qu'elle porte quelque chose d'intéressant en elle, on le sentira. On te dira peut-être pas, ah, c'est une pierre de synthèse, mais verra cette pierre, je ne sens pas qu'il y a un travail à faire avec elle. Qu'elle soit vraie ou pas vraie. Et si on sent qu'on a un travail à faire avec une pierre de synthèse, ben c'est ok. J'ai pas envie de faire vraiment de clivage par rapport à ça, et c'est en tout cas très compliqué. Avec des pierres pierres naturelles, voilà, quartz. Vous m'entendez le quartz poli, hein, c'est du quartz poli. Quartz, celui qui est dans les en général en magasin, il est bien propre. Celui-ci n'a pas été travaillé, celui-ci a été travaillé.
personnellement, je préfère toujours une pierre qui n'a pas été trop travaillée, sauf si son travail a un sens. Mais si c'est juste pour faire joli, d'autant plus qu'il y a un problème par rapport au quartz. Quand c'est juste pour faire joli, le quartz a la capacité, on verra ça dans le passé tout à l'heure, de transmettre l'énergie d'un point vers l'autre. Beaucoup de quartz qui ont été taillés, il faut savoir que dans le quartz, on a des gros blocs, on est clairement dans le sens qui forme un gros grain dedans. Et moi, on prend le bloc et on peut le recoller là-bas. On passe la machine, on a des retraites pour aller. On donne le quartz, alors on te dit évidemment, c'est quoi? On te dit que c'est un quartz marron. Comme ceci, et qui a été simplement produit pour le faire joli. Alors, la dérive de force, évidemment, il a grandi dans un sens, il y a l'énergie qui est allée par là, vers là, dans le travail qu'on va faire, c'est important ça. C'est la seule focalisation de l'énergie. Alors, dans un corps qui a été recalé, régulièrement, quand on le teste, on se rend compte qu'ils sont pas tout calés nécessairement, on a fait croissance du corps. Si on veut s'en servir comme amplificateur, c'est un problème. Si on veut s'en servir comme focalisateur, c'est un problème. Donc voilà, ce qu'on va faire avec. Donc on va faire un tour en cœur artificiel. C'est aussi un truc assez intéressant, c'est les cellules de carton, c'est une quartz qui est taillée dans des formes particulières. Qui faisait des galettes. Avant, on travaillait avec un de forme. Un quartz. Un quartz de choses, ça va être un peu. On verra un petit peu dans le quartz. Dans les types d'outils, justement, ici qu'on a avec les quartz, on a un pseudo-guitarium. Un pseudo parce que c'est un faux, il est taillé comme ça. Alors il y a peut-être été bien taillé dans le sens, comme le vogueul. Vraiment, le vogueul devrait être taillé dans son axe de création. On a tous son axe pas comme ça. Par exemple, dès lors, il y a ce conflit entre le taille. Et l'axe de croissance du cristal. Or, l'idée de la taille, c'est d'amplifier l'axe de croissance du cristal. Si on ne le fait pas, ben, c'est moins intéressant. Des outils ben, comme le Google sert à amplifier. Il y a un outil classique qui est le Wang. Je n'en ai pas parce que moi, je n'aime pas. Il a le bout arrondi. Vous voyez, ok. C'est un outil qui est sympa parce qu'il est arrondi, quand on travaille sur des points, ben, ce qui n'était pas arrondi, c'est plus agréable d'avoir un bout arrondi sur le point, extraire l'énergie pour l'amener. Personnellement, j'utilise quelque chose de plus rudimentaire qui est ce qu'on appelle une pointe laser. Un bout qui est arrondi, qui est sorti, c'est pas fondamental. Des voyantes, là c'est une boule en cristal de roche. Traditionnellement, ça vient de beaucoup de lignes en bohème, de cristal de roche. Donc, c'était un cristal très pur qu'on taillait en boule. C'était pas le cristal,
spécialiste, un médecin, un spécialiste, un médecin. C'est vraiment ça, c'est cette boule-là qui a la particularité de nous aussi, c'est onde de forme, on a la sphère, donc on va créer une sphère énergétique entre la personne qui est là et la croyante, qui embête un peu parce qu'elle a envie de connotation. Donc on va amplifier, l'histoire de la personne, ça va vraiment servir à créer un microcosme comme ça et amplifier la personne, l'histoire, et à projeter, se projeter là-dedans, que la personne soit médium, donc la croyante soit médium, et aidée par cette boule de cristal. C'est un groupe de quartz qui faisait cet office-là. C'est d'ailleurs, j'aime vraiment beaucoup les boules de cristal, mais le quartz, c'est très cher. Ah, c'est des trucs, ça a dû faire un centaine de temps, enfin, dans les centaines de groupes. Ah, oui. Oui. C'est dommage.
De notre côté, quand on est une.
Qu'est-ce que
tu veux? De notre côté, quand on est une, c'est à vie.
Bah, a priori, oui. Alors là, à vie, tu abordes un autre sujet qui est l'usure des cristaux. Il semble rien, moi je n'en ai pas vécu encore comme expérience, hein, sauf pour une langue de série. Là on peut dire que les raisons sont peut-être différentes. Enfin, qu'un cristal, à force de travailler, peut s'user, peut se fatiguer et voire même éclater. Enfin, c'est pas juste une langue de série qui est éclatée. C'est un peuple qui est parti en désagrégation alors que les autres ne vivaient pas du tout la même chose. C'est une langue qui a beaucoup servi. Qui était le gros problème de santé qui a beaucoup servi à ce niveau-là. Et donc, les cristaux peuvent perdre leur puissance, perdre leur efficacité, comme ils peuvent également se fendre, éclater après avoir servi. Enfin, par exemple, ils ont beaucoup servi ou ils ont donné des trucs très forts. Je peux juste vous faire part d'expérience, le reste de ce que j'ai entendu, a priori de personne, j'aurais envie d'accorder du crédit. C'est vrai que dans ce domaine-là, par rapport au crédit, à la confiance, j'ai toujours envie de rester assez prudent parce qu'on dit des choses, on entend des choses. On est dans un domaine aussi où, de nouveau, il y a beaucoup d'argent, hein, parce qu'il y a avec ses bouquins, ben, oui, son travail est intéressant, mais le business, très important ce qu'il fait. Ouais. Alors, on va parler des séides de Platon. Justement, les cinq séides de Platon qui sont là sont vraiment des ondes de forme bien particulières pour les travaux. Bien particuliers. Des travaux plutôt de type méditation. Mais ils pourraient servir également pour ce qu'on verra plus tard tout à l'heure. C'est-à-dire utiliser l'onde de forme du cristal pour renforcer une onde de forme qu'on créerait. Supposons qu'on va créer une onde de forme carrée. Et si on utilise des cristaux qui sont taillés en cubique, ben, a priori, on va renforcer ça encore en mettant des cristaux qui sont touchés en cubique. Et voilà, ça pourrait être intéressant à ce niveau-là, mais ils sont surtout utilisés dans l'aspect méditatif et dans ce que la forme et la géométrie peut nous apporter dans notre travail sur nous.
Je vous ai parlé de tout, donc c'est par la moitié chinois.
Ok, c'est par un peu plus de belge alors. Quelle est la partie qui n'est pas plus.
Le côté de travail et de la géométrie.
Ok, les ondes de forme, ça te parle?
Non.
Non,
je.
Les ondes de forme. En fait, on a remarqué dans une école générale qu'on va appeler la radionique que des éléments d'une certaine forme vont émettre un champ vibratoire.
C'est ça, le pyramide.
Le pyramide, par exemple, c'est une onde de forme. Il n'y a pas une onde de forme différente. Les lettres hébraïques sont des ondes de forme également. Il y a des ondes de forme simples, comme la pyramide. Des formes tellement complexes qu'un niveau très variable. Donc, une autre onde de forme que nous connaissons, c'est le mystique. On travaille une fiable brute, le mystique, en public.
C'est quelque part, en fait, des symboles aussi,
quand on parle de forme. Oui, il y a tout ça fait ça. Donc c'est une forme qui va créer une onde. Pour simplifier, donc on est toujours dans la programmation, dans la vibration. Donc on va faire quelque chose. L'univers, la structure de l'univers a un côté très géométrique quelque part. Et donc on va rappeler une certaine forme de géométrie, une certaine forme de symbolisme par le biais de formes qu'on va créer et qui vont réalimenter, amplifier le travail qu'on fait.
Est-ce que tu peux dire telle forme va avoir telle d'impact sur travailler sur tel type de.
Oui, donc ça c'est le domaine effectivement de la radionique. On va utiliser certaines formes pour renforcer certaines choses chez les personnes. Par exemple, le cul, ça va vraiment être quelque chose qui va permettre de recadrer la personne. La pyramide va être quelque chose qui va régénérer. C'est un amplificateur et un régénérateur. Il y a d'ailleurs en français qui a passé un certain moment un brevet pour une pyramide. Tu mettais une lame de rasoir en dessous de la pyramide et la lame de rasoir se réaffûtait toute seule. Donc,
il y a plein de choses comme ça à utiliser pour la conservation.
Oui, la conservation, c'est tout à fait. Bon, bien sûr, ça dépend des scientifiques de notre point. C'est pas logique, donc on constate qu'on n'en voit pas trop.
Est-ce que c'est la forme qui a cet effet-là ou la matière de ce qu'on voit dans la forme?
Les deux. Agissent. Mais la forme, à la base, si on reste dans la zone de forme, la forme, donc tu crées une forme avec X bout de bois, je ne sais pas combien il faut pour faire une pyramide. Bon, ce qu'il faut pour faire une pyramide, je vais passer la réponse à François. Voilà, tu crées ton nombre de formes. Tu peux aller plus loin, tu mets simplement les points dans l'espace. À ce moment-là, c'est ton mental qui est important. Tu visualises ta pyramide, tu crées ton nombre de formes. Le mental est très très important. Dans plein de techniques, on va utiliser le signe de croix est un nombre de formes. On se connecte à un nombre de formes. C'est peut-être un petit peu lourd, mais peu importe, on se connecte à ça. Et il y a plein de signes qui sont vraiment recréés des ondes de formes bien particulières. Ça, c'est le domaine de la radionique, un domaine bien particulier. Il ne faut pas s'éterniser là-dessus, surtout que c'est un domaine complexe. On va dire que c'est un domaine complexe. Aussi, on ne va pas vraiment dire qu'il y a un truc bien précis pour cela. On utilise surtout les ondes de forme pour renforcer un autre type de travail. Donc, surtout cette fonction-là. On va être, par exemple, dans une pyramide en forme, une structure en forme de Merkava pour la méditation. C'est un truc assez branché, quoi. Jamais essayé. Merkava, ce sont deux pyramides inversées, un côté l'une dans l'autre, ça renforcerait par exemple très très fort la capacité de voyager en état de méditation. Les ondes de fond, ben, ça renforce et connecte à quelque chose. Donc ici, on travaille avec des amplificateurs et des ondes de forme, mais dans la géométrie. Puisque j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi les trébrailles qui sont des ondes de forme, mais qui sont pas du tout géométriques. Une histoire beaucoup plus symbolique, culturelle, très puissante. Ici, on a la géométrie, donc on est dans la création plutôt, je dirais, mécanique, physique du monde, donc d'en renforcer la connexion à cela plutôt. C'est Platon, donc les autres ondes de forme, je ne peux pas. Les cellules de Platon. Les autres ondes de forme, on peut parler aussi de pentagramme, diagramme. On reviendra là-dessus en cristalline, en géométrie cristalline tout à l'heure. On va les utiliser, les pentagrammes, les
les obélisques, évidemment, qui sont des trucs très puissants. Quoi pour rien, l'église, on crée un grand truc de connexion avec de la pierre taillée dans ce cas-là, mais de façon très cristalline, des choses puissantes. Les montagnes, les pentes falaises, tout ça, c'est vraiment la peine de se connecter à cette énergie-là, de voir ce qu'on peut prendre comme énergie. Puis je vais essayer de ramener chez soi. Et alors, les amas de cristaux, un peu le sidrure, le géode, amas de cristaux. Évidemment, c'est très, très concentré, c'est des cristaux qui partent dans tous les sens. On peut s'en servir à plein de choses. C'est vrai que dans une pièce, ça a tendance à un amas de cristaux qu'on met dans une pièce pour rééquilibrer la pièce, pour renvoyer une bonne programme, bien sûr, pour cette section en puissant pour rééquilibrer une pièce. Dans son cabinet, ben, c'est chouette d'avoir ça parce que ça permet de programmer ce qu'on veut et d'avoir un beau gros émetteur. Pour moi, plus intéressant qu'un gros quartz, c'est intéressant aussi une belle grosse colonne qui a une fonction légèrement différente. Pour moi, la belle grosse colonne va plutôt servir de grand émetteur, mais pour la Terre, pour l'univers, enfin pour quelque chose de beaucoup plus grand. Attention, si on fait une méditation de pleine lune, ce sera chouette d'avoir un gros quartz au milieu et chacun en. Même une méditation d'aliment pour la Terre, pour l'univers, bref, pour ce qu'on veut, et ça va vraiment répondre partout. La géode va plutôt servir, en un sens, à envoyer l'énergie partout, mais dans la maison, même plus petit, enfin dans la maison, dans la pièce, c'est vraiment ceux qui envoient l'énergie partout, l'énergie, on a choisi de mettre dedans, elle va servir aussi, on verra plus tard, pour les purifications, cette purification de notre énergie, on ne l'épuise pas, on précise pas. La rencontre avec la pierre, le soin apporté à la pierre. La première chose, comment choisir sa pierre? On a déjà un petit peu abordé les choses tout à l'heure. On peut soit la choisir par ce qu'on ressent, un coup de cœur, soit effectivement parce qu'il y a des personnes, on leur demande de ressentir quelque chose, par exemple, difficile. Et la rencontre sera plutôt par l'intellect. On va regarder un bouquin, c'est-à-dire effectivement, on va utiliser le psyllium pour se débarrasser de certains plans mentaux, se rapprocher à la Terre. Ben oui, j'ai l'impression que c'est bon pour moi, je vais chercher le psyllium. Ok, c'est une démarche intellectuelle, et puis on voit ce qu'on peut faire avec. Pourquoi pas faire la démarche intellectuelle? Si je vais plutôt m'axer évidemment sur la démarche du ressenti et vous encourager à aller dans ce sens-là. Donc, choisir sa pierre, c'est un coup de cœur. C'est sentir qu'on a envie d'une pierre et d'aller dans un magasin pour ce numéro et voir si c'est quelque chose qui nous flash. Au contraire, c'est une rencontre imprévue, mais voilà, bah, une pierre. Se dire, j'ai besoin de cette chakra, cette pierre pour commencer à travailler, et à tout prix ne pas vouloir sortir du magasin sans avoir trouvé les pierres qui nous conviennent, c'est vraiment prendre le risque de travailler des pierres assez moyennes pour nous. La pierre doit vraiment être. Si on va faire, ça j'en suis convaincu, si on va faire un bon travail avec la pierre doit être notre ami, notre allié, elle doit être quelque chose avec lequel on vit. Sinon, on risque de faire vraiment quelque chose de moyen, on fera un travail intellectuel qui ne sera pas non plus nul, mais ce sera un travail plus intellectuel. Donc, première chose, choisir. Ok. Et je vais vous proposer justement de faire un petit jeu par rapport à ça. Et d'imaginer que vous êtes dans un magasin et chacune à votre tour de voir s'il y a une pierre là sur la table. Elle ne rate pas. Ok. S'il y a une pierre sur la table qui vous attire plus qu'une autre, et de la prendre.
Oui.
On en parle rarement dans les bouquins. On parle beaucoup de charges, comment nettoyer son cristal. Or, classiquement, on lira un cristal, il faut le nettoyer dans l'eau salée. C'est vraiment le grand classique. Et en rajoutant toujours en dessous, il faut le nettoyer dans l'eau salée. Mais il faut faire attention parce que certains cristaux ne supportent pas le sel. Alors, si on existerait, c'est dommage. Si on n'a pas de bouquin, c'est encore plus dommage. Il faut travailler un cristal qu'on aime bien parce qu'on aime dans le sel. Sur l'eau. Mais même un cristal qui supporte le sel, est dissous dans l'eau, et il va s'immiscer. Un cristal, il a plein de petites fentes, dans la plupart des cas, qu'on ne voit pas nécessairement. Il va s'immiscer les fentes. Et il peut jouer dans le cristal, il va se rajouter au cristal. Donc personnellement, je ne suis pas du tout partisan du sel. Je vais vous dire un petit peu les différentes choses qu'on retrouve, et puis je vais vous dire ce que je vous propose. Hein, la purification au sel, la purification à l'eau, donc passer sous une autre source. Certains disent sous l'eau du robinet, mais alors l'eau du robinet, l'eau de vibration, tout ça, pas grand sens pour moi. Purification par la fumée, par l'encens, les encens purificateurs, vibrant, myrte, benjoin, les trois classiques dans les encens purificateurs. La purification par le souffle, effectivement, le vent, le souffle. La purification par chargement dans la terre. On demande à la terre mère de s'occuper du cristal, ça c'est pas très pratique. Ils sont en creusé des trous. Tout un cristal. Je sais si on a comprendre ce qu'on trouve dans la littérature habituellement. Les sons ont une chose déjà plus subtile, qui me parle moins plus. Vol tibétain, diapason, vol du cristal. Les ondes de forme, dont on parlait un petit peu tout à l'heure, hein, utiliser les ondes de forme pour nettoyer, purifier, recharger. Dans ces techniques-là, certaines sont juste pour purifier, d'autres c'est pour purifier et recharger. La lumière. Qui nettoie, qui recharge, les ruses, les amas cristallins qui peuvent nettoyer, recharger. Dans tout ça, il y a une chose qui n'est pas si faute, c'est justement qui m'aide à la main. La plus facile, la plus juste et la plus puissante, qui est la visualisation. On y voit dans ces idées d'intention, de reprogrammation, on en parlait tout à l'heure. Mais qui demande d'être dans la conscience. Et c'est pour ça que pour moi c'est important. Parce que passer, tu sais, comme ça, mon cristal, je dois le recharger, hop, allez, je balance dans le sel, et puis je pense au ce que je dois faire, et je ressors du sel, et je nettoie. Peut-être, je ne sais pas. Ou je le passe sous l'eau, machin. Pour moi, l'intention est vraiment fondamentale. Donc la visualisation qui va rajouter deux petits éléments. Pour un feng shui qui est l'arrivée des trois secrets, qui est la visualisation, le mouvement et la parole. Tout ça, toujours dans le même sens, c'est vraiment pour renforcer ce qu'on va faire. Et donc, pour moi, la première chose qu'on va faire pour le cristal, c'est qu'on va le déprogrammer. C'est-à-dire qu'avec intention, présence, on va prendre son cristal dans ses mains. Idéalement, la main droite, parce qu'on va donner une information. Parce que si on va donner des informations, je ne sais pas si c'est très important. Ce qu'on retrouve, je pense que dans les données, ça fonctionne. C'est pas ça le plus important. Donc, on va visualiser son cristal et on va. Là, il faut que chacun trouve la phrase qui lui convient. Est-ce qu'on va demander à l'univers? Est-ce qu'on va demander à son Dieu, à ses anges, à ses guides, à la force de la terre, bref, à ce qui nous parle, à notre croyance, à nous,
grande force vibratoire à laquelle on se rattache. Donc on va dans les traces du temps pour déprogrammer ce cristal et n'oublions pas que je suis en train de faire un peu fort de choses avec un cristal. On peut décider qu'on est tout puissant, qu'on a un maillon dans la chair. Si on est tout puissant, on va dire voilà, cristal, je te libère de ton programme. Donc, je prends le pouvoir de te libérer. Ou on peut demander, là, je vais dire ici l'univers, hein, pour créer un mot qui nous convient. On peut demander à l'univers, voilà, je demande à l'univers de nettoyer ce cristal, en sachant tout ça, parce que c'est, si c'est un accord, si ça peut se faire. Mais on n'est que maillon dans ce chemin-là. Donc de déprogrammer, première chose, on va le déprogrammer, on va le libérer, on va demander à l'univers de le libérer de son programme. S'il est déprogrammé, comme on ne sait rien, on va d'abord le déprogrammer.
Est-ce que tu... Pour toi, c'est la même chose,
le programme,
ou tout ce qu'il a accumulé?
Non, ce sont deux choses différentes. Le programme, c'est par exemple un quartz. Tu vas prendre ton quartz à toi, tu vas le programmer. Programmer, par exemple, pour apporter de la joie dans ta vie. Et encore, tu peux donner un programme. Supposer qu'un jour, tu n'as plus envie, tu n'as plus envie de la maison, tu peux le déprogrammer. Un voisin qui est programmé pour obtenir un jour dans ta maison, ben, supposer qu'il y a des engueulades, des tensions, des machins comme ça, il va prendre ça aussi. Donc on va le nettoyer de ce qu'il a pris, mais garder son programme. Donc, c'est là que sont les choses qui sont pas les mêmes. On va le charger positivement, entre charger positivement et reprogrammer, c'est pas la même chose. Nettoyer et recharger, c'est des choses qu'on va faire régulièrement, mais programmer et déprogrammer, on le fait. C'est pour ça que quand on a une nouvelle pierre, la première chose, on va la déprogrammer. Toujours en gardant droit. Après, si vous avez envie de faire d'autres choses, vous le faites. Moi, je vous parle ici de la visualisation parce que c'est celle qui me parle le plus. Je pense que les autres sont toutes valables, mais de toute façon, dans toutes les autres, rajouter la visualisation et la présence est très important. Si ça vous parle de faire ça en la passant sur l'urgence, en la passant dans l'eau, souffrant en même temps au soleil, ok, mais rajoutez-y toujours la visualisation et la. Enfin, c'est ces trois règles, la visualisation, l'expression, dire ce qu'on entend, vraiment l'énoncer aux voix, et faire un geste, faire mettre un mouvement, prendre autre chose, par exemple de forme, dans, hein, je te bénis, hein, je fais un mouvement, ok, donc pas nécessairement la danse, si ça vous parle, vous, hein, de bénir votre pierre, ok, vous l'énoncez, vous une croix dessus, si ça vous parle, tout à fait ok. Mais l'idée, c'est de faire un mouvement qui vous parle, et donc que ça vous parle à vous. C'est pour ça que je ne donne pas une phrase type, que je ne donne pas un truc. Parce qu'on est dans les croyances, et là, on a chacun nos croyances, que nos croyances sont évolutives. Que ce qui est important, c'est d'être dans ce qu'on croit. Vraiment, dans toute sa foi à nous, dans quelque chose. Donc, ça c'est votre chemin. Donc, première chose, on déprogramme la pierre. Deuxième chose, toujours en visualisant cette pierre, on va la nettoyer. Donc là, on va visualiser nous, quelque chose qui nous parle. Est-ce que c'est une lumière qui va la nettoyer? Est-ce que c'est un vent céleste qui va la nettoyer? Enfin, quelque chose qui vient la nettoyer. Et donc, on visualise, on demande toujours, je demande à l'univers de nettoyer cette pierre et de faire, par exemple, ce geste-là, nettoyer cette pierre, donc pour que les énergies retournent à la terre mère, que la terre mère recycle ces énergies. Un exemple, de nouveau, chacun de sa croyance traitement pour mieux, c'est le système qui pour moi est important. Ok, la pierre est à son longueur nettoyée. Si vous avez fait avec intention, il n'y a aucun problème, la pierre est nettoyée. On propose également de faire trois fois le même rituel pour être certain d'avoir été au moins une fois dans la présence. Pour moi, si on est une fois vraiment dans la présence, c'est tout à fait suffisant plutôt que trois fois dans l'absence, parce qu'on peut faire trois fois de la présence. Donc vraiment, la présence, la foi, c'est ce moment d'intensité qui est très important. C'est ça qui va faire la qualité du travail. Après avoir nettoyé la pierre, on va recharger la pierre.
Donc là, on va un nouveau prendre un exemple. Je remercie l'univers de recharger cette pierre. On visualise en rayon du pierre, un truc qui fait que la pierre est rechargée. On visualise okay. La pierre, elle est rechargée. C'est vraiment une conscience qu'elle est rechargée. C'est ce que je vous propose de faire maintenant pour préparer cette pierre avant de la programmer. Après avoir fait ça, la pierre, maintenant, elle est déprogrammée, elle est nettoyée, elle est rechargée. C'est-à-dire qu'elle est rechargée, qu'elle est à son maximum de puissance de ce qu'elle peut faire. Et là, je vais vous proposer, après avoir fait ces trois phases-là, de découvrir cette pierre. Vous pouvez à ce moment-là, soit être dans un état de relâchement, être en contact avec vos sensations, soit la tenir dans la main gauche, la main vers soi, soit la mettre au niveau du troisième œil, soit la mettre au niveau du cœur, pour sentir ce qui vous semble le plus juste, et de prendre un temps, le temps de, en prenant cette pierre, qu'est-ce qui se passe chez vous? Quelles sensations, votre corps, il y a un relâchement, il y a un, ça se referme là, j'ai des couleurs, j'ai des images, j'ai des idées, qu'est-ce qui se passe? Et donc d'aller à la rencontre de cette pierre. Alors pour aller bien à la rencontre d'une pierre, il y a de nouveau trois petites règles qui sont d'abord l'intention et la confiance. Quand vous allez prendre cette pierre, vous allez d'abord y mettre une intention. L'intention, c'est, vous formulez ça avec vos mots, je vais à la rencontre de cette pierre pour voir ce qu'elle peut m'apporter, quelle est son utilité, qu'est-ce que je peux faire avec cette pierre. Je demande à cette pierre de me donner des informations de ce que je peux faire, de ce qu'on peut faire ensemble. Ça, c'est l'intention à faire avant de commencer. L'intention est claire. Je vais faire un travail pour découvrir ce que la pierre va m'apporter. Ensuite, être dans l'attention. Donc, être attentif à tout ce qui se passe au niveau physiologique, au niveau émotion, au niveau pensée. Et ensuite, et pendant ce temps-là, être dans la confiance, c'est-à-dire ne pas être critique à ce moment-là. Ne pas se dire, bon, ça, attends, si j'ai mal aux pieds, c'est parce que j'ai marché 15 km hier, si je commence à baver, c'est parce qu'il me dit que j'ai faim, enfin, bon. Hein? Être dans la confiance, donc on reçoit. Une fois que vous avez l'impression que vous avez reçu suffisamment d'informations, qu'il n'y a plus de choses qui reviennent, ok, on remet la pierre, moi j'aime bien remercier tout ça. La pierre éventuellement si on veut pour redonner cette information. Et je propose qu'on mette comme ça toujours sans être critique sur papier ce qu'on a vécu. Et après vient la phase critique. Oui, j'avais ok, je suis beaucoup trop petit, c'est peut-être ça. Mais on est critique seulement après. Parce que si on est critique tout de suite, on risque de passer à côté de toute une série d'informations qui pourraient être très pertinentes. Vraiment, attention, confiance. À ce moment-là, on va voir ce que la pierre peut apporter. Donc, oui. À ce moment-là, on va dire après ce qu'on fera pour rencontrer la tête. Est-ce que ça vous tente de faire cet exercice?